France Culture.
Et les midis, deuxième partie, c'est parti. À 13h, je recevrai le réalisateur Pascal Bonitzer. Mais tout de suite, c'est l'heure du point culture de Marie Sorbier. Bonjour.
Bonjour Marie et bonjour à tous. Pourquoi les écrivains ont-ils souvent entretenu une relation si particulière avec les hôtels? Deux romans parus en cette rentrée littéraire d'hiver relancent cette question historique et esthétique. Hôtel Louisiane de Julie Duchâtel, paru chez Michel Lafon, nous invite à Saint-Germain-des-Prés, à Paris. Et Minuit à bord de Laura Alcoba chez Gallimard nous entraîne à la frontière espagnole. À travers ces deux récits se dessine le portrait d'un lieu paradoxal à la fois anonyme et intime, provisoire et pourtant essentiel. L'hôtel offre aux écrivains un espace suspendu, libéré des contraintes domestiques, où la solitude devient féconde et permet une disponibilité à l'écriture. Ces deux autrices nous invitent à comprendre comment la chambre d'hôtel, lieu de transit et de souvenirs, peut devenir le territoire fertile de la création littéraire. Julie Duchâtel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes romancière et vous venez de faire paraître aux éditions Michel Lafon, Hôtel Louisiane. Alors pourquoi avoir choisi cet hôtel, qui est quand même un hôtel mythique de Saint-Germain-des-Prés, comme centre de gravité du livre? Je crois qu'on peut vraiment dire ça. Qu'est-ce que ce lieu permet de raconter du Paris littéraire et artistique?
Alors ce lieu, j'ai choisi un peu par hasard, parce que je m'étais rendue à une exposition, et j'ai été frappée par la liberté et par la créativité dans cet hôtel. C'était un soir d'exposition, donc il y avait énormément de jeunes artistes, de performances, et ça m'a intriguée, j'ai commencé à faire des recherches, à me rendre compte que voilà, une multitude d'artistes étaient passés par là, et vraiment le point qui les relie tous, c'est clairement la liberté.
Alors peut-être pour nos auditrices et nos auditeurs, est-ce que vous pourriez nous décrire en quelques mots cet hôtel Louisiane, alors peut-être aujourd'hui et puis aussi avant?
Alors aujourd'hui, c'est un hôtel qui est situé à Saint-Germain-des-Prés, qui est vraiment au cœur de Saint-Germain-des-Prés, entre la rue de Bussy et la rue de Seine. C'est un hôtel dans lequel continuent de passer des artistes. Et moi, je raconte les débuts de l'hôtel, donc dans les années 1920. Et je raconte à la fois la vie de cette famille, puisque je pense que c'est indissociable de raconter la vie de cette famille pour comprendre pourquoi cet hôtel a attiré autant d'artistes, d'écrivains... depuis tant d'années. Il y a donc Saint-Exupéry, Hemingway, plus tard Sartre, Beauvoir. Enfin, c'était vraiment un carrefour d'intellectuels qui logeaient là, en fait, et qui se retrouvaient.
Alors, comment avez-vous travaillé? C'est un livre qui semble, en tout cas quand on le lit, très documenté. Est-ce que tout y est vrai? Et comment vous avez trouvé cette matière-là?
Dans un premier temps, moi, j'ai commencé à interviewer la famille. Donc, eux m'ont raconté leur histoire familiale, qui est quand même très, très romanesque. Et en parallèle, j'ai fait beaucoup de recherches. Donc, j'ai lu énormément de livres, d'articles. Je me suis aussi documentée avec les faits divers, qui étaient assez intéressants. Il y a plein de petits moments où, voilà, c'est des moments exacts. J'ai essayé de retrouver les habitants. Parce que ce qui m'intéressait, c'était à la fois ces habitants très connus, ces légendes qui, à ce moment-là, ne le sont pas encore, mais aussi les anonymes. Et j'ai essayé de tous les mettre sur le même plan, parce que c'est quand même ça qui est intéressant, c'était dans cette vie-là, ils étaient tous à égalité. Et pour ça, j'ai beaucoup utilisé les registres de l'hôtel. Malheureusement, je ne les ai pas tous retrouvés, mais grâce au recensement, j'en ai trouvé quelques-uns. Donc tous les noms, globalement, sont exacts. J'en ai quasiment pas inventé. Par les recensements, ça m'a permis de retrouver aussi le nom des employés. Et j'ai même utilisé, par exemple, des actes de notaire. C'est très documenté. Et à partir de ce squelette, en quelque sorte, que j'ai créé, pour tout relier, on va dire que c'est là où j'ai rajouté du romanesque.
C'est vrai que dans ce livre-là, on a à la fois les nuits de Saint-Germain, la vie festive, la vie littéraire, la vie musicale aussi. On n'a pas parlé, mais le jazz est quand même présent, bien sûr. Et aussi cette vie très dure. Les vivres, par exemple, sont rares. Comment vous avez équilibré ces deux images de Saint-Germain?
Je pense que oui, ça s'est fait assez naturellement, parce que le fait de raconter vraiment cette... Je parle de vie fleuve dans l'hôtel, où tout le monde cohabite ensemble. Il faut imaginer que les portes étaient encore ouvertes. C'est des petites chambres. Ils ont une cuisine, mais il n'y a même pas de salle de bain.
Ils mangent dans les chambres, parce qu'ils invitent leurs amis dans les chambres.
Tout le monde passe, donc il y a une vie très festive. Et en même temps, cette vie, on peut aussi vivre des drames. C'est un lieu où il y a très peu d'intimité, finalement, par cette cohabitation parfois forcée aussi.
Mais qui dit peu d'intimité dit porosité. C'est aussi pour ça que c'était un lieu littéraire ou artistique prisé, parce que finalement, les gens se rencontraient.
Alors oui, il faut en plus, si vous venez à l'hôtel, vous verrez que les couloirs sont extrêmement étroits, donc on est obligé de toute façon de se rencontrer. Mais c'était très bien placé, c'était quand même situé à côté du Flore, à côté d'énormément de cafés qui attiraient, et puis pour des raisons économiques aussi. C'était un hôtel qui n'était pas cher, on sortait d'une crise économique à ce moment-là, donc ça avait de quoi attirer. Puis le fait que certaines personnes y aillent, par exemple quand Sartre a commencé à y aller, tout le monde voulait loger dans l'hôtel de Sartre.
Alors, vous disiez que vous aviez accumulé beaucoup de documentation. Est-ce que ça veut dire que ce livre-là, ce n'est qu'un début et que vous allez poursuivre votre archéologie de l'hôtel Louisiane?
J'espère que ce sera possible. Il y a encore plein d'histoires à raconter. J'ai très envie de poursuivre cette aventure.
Bien, merci beaucoup, Julie Duchâtel. Je rappelle que votre livre Hôtel Louisiane vient juste de paraître aux éditions Michel Lafon. Après les beaux quartiers parisiens, changement d'atmosphère, direction les Pyrénées françaises, sur les traces du poète et réalisateur Benjamin Fondane. Laura Alcoba, bonjour.
Bonjour.
Votre enquête romanesque Minuit à bord vient de paraître aux éditions Gallimard et vous centrez votre roman sur l'hôtel Belvédère, qui se trouve à la frontière espagnole. Alors l'hôtel du Belvédère qui semble avoir été quand même un refuge pour de nombreux artistes. Il est décrit comme un paquebot de béton armé des années 30 pointant sa proue immobile vers la mer, je vous cite. Cette architecture si particulière, est-ce qu'elle a joué un rôle dans l'attraction qu'il exerçait cet hôtel sur les artistes de l'époque selon vous?
Oui, tout à fait. C'est un lieu absolument magique, mais c'est un lieu qui a une histoire très particulière puisqu'il est effectivement à la frontière espagnole. Il a été, enfin, à l'endroit vraiment où commence l'Espagne, mais encore en France. Il a été inauguré dans les années 30 et bien entendu, la guerre d'Espagne et ensuite la Seconde Guerre mondiale est venue bousculer tout ça. Donc, ce lieu qui a été imaginé pour accueillir des passagers en transit entre la France et l'Espagne, parce que à cet endroit, entre la mer et la voie ferrée, en fait, l'écartement des rails n'était pas le même pendant très longtemps entre la France et l'Espagne, et on devait changer de train avant de passer côté espagnol. Donc, ce lieu a été imaginé pour accueillir des voyageurs de passage. Il avait une salle de cinéma. Il était vraiment prévu qu'on y passe quelques jours. C'est un lieu absolument somptueux, mais très vite, il est devenu un lieu fantôme parce qu'on n'y a plus fait transit, plus personne n'est passé par là. Donc il a fasciné à la fois par cette construction absolument somptueuse, sublime, mais qui est très vite devenue un lieu fantomatique.
Alors peut-être un mot sur Benjamin Fondane, c'est ce poète que vous suivez dans le livre et puis aussi sur les autres artistes et intellectuels qui ont fréquenté cet hôtel. Comment cette concentration créative a-t-elle influencé l'atmosphère du lieu ?
Disons que je faisais des recherches sur Benjamin Fondane depuis très longtemps, sur notamment son film disparu, Talali, là, qu'il a tourné en Argentine et dont on n'a plus de traces. On sait qu'il a été détruit. Voilà, dans le livre, on tourne autour de ce mystère de la disparition et destruction de ce film. Et ce lieu, pour moi, était vraiment le cadre idéal pour ouvrir ma mallette Fondane, ce que j'appelle ma mallette Fondane, où j'ai recueilli vraiment des informations pendant des années sur cette histoire de films disparus et Benjamin Fondane, qui est un poète absolument magnifique. Et son histoire résonnait tellement avec ce lieu. Mais d'autres auteurs, effectivement, ont écrit, habité ces murs dernièrement. Il y a une résidence d'écrivains. C'est un lieu qui est chargé d'une telle force par peut-être ce rêve qu'il incarne au bord de la mer et qui est inhabité, qui appelle à être habité en fait par, je crois, par l'écriture, par la création. Le lieu est venu à moi de manière comme par enchantement au moment où je voulais travailler sur l'histoire, reconstruire l'histoire de Benjamin Fondane. Et il y avait un tel lien entre ce lieu et l'histoire que je cherchais à reconstruire que vraiment ça s'est passé de manière presque miraculeuse et magique. C'est ces mystères qui déclenchent l'écriture, en tout cas pour moi.
Bien, merci beaucoup Laura Alcoba. Je rappelle que votre roman « Minuit à bord » vient de paraître aux éditions Gallimard et il y est question bien sûr de Benjamin Fondane et de cet hôtel du Belvédère. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous.
Merci Marie. On vous retrouve demain pour de nouvelles actualités et vous serez en direct de...
de Dunkerque demain. À demain, Marie.
À demain, en attendant, il est 13h et vous écoutez France Culture.